Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et en cette trêve internationale, on commencera ce Tour d'Europe par parler du Portugal, de Cristiano Ronaldo. À quoi joue le Portugal avec CR7? C'est la question qu'on posera à Julien Pereira, notre spécialiste du football portugais. On ira ensuite en Allemagne pour évoquer l'arrivée surprise de Thomas Tuchel au Bayern. David Lortolari nous expliquera les contours de cette arrivée. Et on parlera aussi des ambitions de la Mannschaft en vue de l'Euro 2024. L'Allemagne peut-elle aller gagner le titre? C'est la question un peu loufoque qu'on va se poser avec lui. Et on refermera enfin ce Tour d'Europe en allant en Italie pour parler du cas Milan Skriniar qui inquiète au Paris Saint-Germain. Le Slovaque est blessé au dos et pourrait ne pas rejouer jusqu'à la fin de saison. Alors Paris a-t-il des raisons de s'inquiéter? Guillaume Maier-Pacini nous expliquera tout ce qu'il se passe en coulisses. Vous connaissez le programme, Tour d'Europe est à retrouver en podcast chaque semaine et chaque lundi, surtout sur les plateformes d'écoute. Si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur eurosport.fr. Tour d'Europe, c'est parti! Et allez, on commence ce Tour d'Europe par évoquer cette trêve internationale et le renouveau ou pas du Portugal. On accueille Julien Pereira, notre couteau suisse à nous, parfois présentateur de cette émission, mais aussi et surtout fervent suiveur du football portugais. Salut Julien, j'ai envie de te demander comment va le Portugal avec cette nouvelle ère Martinez ?
Le Portugal va bien, le Portugal ne va pas faire la fine bouche parce que deux victoires sans prendre des buts et en marquant 10, c'est plutôt pas mal. C'est pas souvent arrivé dans l'histoire de la sélection. Évidemment, il y a l'adversité qu'il faut prendre en compte, il n'y a pas non plus d'effusion, il n'y a pas d'emballement. Mais il y a des satisfactions, il y a du renouveau, il y a des nouveautés intéressantes. Et des choses qui donnent l'impression de revenir un petit peu en arrière.
Ah, et bon, alors évidemment, on vient de voir pour parler de ceci et d'un joueur en particulier, c'est évidemment Cristiano Ronaldo, rappelé par Martinez, capitaine et titulaire lors de ces deux matchs face au Liechtenstein et au Luxembourg, deux doublés pour CR7. Ma question, elle est très directe. À quoi joue le Portugal avec Cristiano Ronaldo, Julien ?
Eh bien, c'est une excellente question. Tout le monde se pose la question en réalité, à part Roberto Martinez. Tu l'as dit, il y a eu deux victoires très intéressantes, mais lundi matin, ce qui faisait la une de la plupart des quotidiens sportifs portugais, c'est ce débat autour de Cristiano Ronaldo et indirectement de Gonçalo Ramos, parce que Ronaldo soit là, personne n'en doutait, personne ne le remet en question d'ailleurs. Là où le bât blesse, c'est plutôt la question de son statut, parce qu'on attendait Gonçalo Ramos titulaire sur au moins l'un des deux matchs. Finalement, il a joué moins de 40 minutes, et Ronaldo, lui, a été titulaire sur les deux matchs. Ce qui laisse penser quand même que Roberto Martinez veut continuer d'en faire un élément central de son 11, alors que Fernando Santos avait fait un petit peu le sale boulot pour lui à la Coupe du Monde, c'est-à-dire faire comprendre à Cristiano Ronaldo qu'il n'est plus une star autour de, avec 10 joueurs autour de lui, mais bien un élément parmi beaucoup d'autres qui sont aussi forts et aussi importants que lui.
On l'a dit, alors effectivement, sa place dans le groupe, on peut comprendre. Cristiano Ronaldo a décidé de poursuivre sa carrière au moins jusqu'à l'Euro, si on a bien compris, Julien. Mais pourquoi cette volonté de lui redonner le leadership avec le brassard, de le remettre titulaire, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit le cas jusqu'à l'Euro et que donc, potentiellement, Cristiano Ronaldo, en ayant joué quasiment deux saisons dans un championnat mineur comme celui d'Arabie Saoudite, soit l'attaquant titulaire du Portugal à l'Euro 2024?
La question a été posée en conférence de presse à Roberto Martinez et il a répondu que son expérience, son statut et aussi sa faculté à marquer des buts étaient importantes. Le problème, c'est que personne n'en a jamais douté. Tout le monde sait très bien que Ronaldo est capable de marquer des buts contre le Luxembourg, contre le Liechtenstein et même contre des équipes plus fortes. Le problème, c'est que c'est plus seulement ce qu'on lui demande. Il y a une vraie volonté aujourd'hui, avec cette génération qui est une génération dorée, de mettre en place quelque chose de solide, quelque chose de cohérent. Et aujourd'hui, pour faire quelque chose de cohérent en équipe nationale, vous êtes obligé de faire ce qui se fait en club, c'est-à-dire avoir 11 joueurs qui travaillent pour le collectif. Et le rôle d'attaquant de pointe est très important sur ce plan-là. Il a beaucoup été question, lors de la première conférence de presse avant ces deux matchs, de Roberto Martinez, de contre-pressing, de récupération haute, parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas assez sous Fernando Santos. Les réponses étaient plutôt positives sur ce plan-là. Finalement, les actes n'ont pas suivi parce que bah, Ronaldo, c'est un joueur qui marque des buts, certes, c'est un joueur qui parfois va faire les efforts. Mais il ne s'agit pas seulement de faire les efforts, il s'agit de savoir comment les faire, savoir à quel moment les faire, savoir étudier la défense adverse pour savoir avec quel pied le défenseur qui a le ballon va relancer ou est le moins à l'aise. Voilà, ça nécessite un travail en amont et c'est quelque chose que Ronaldo ne fait pas pour la simple et bonne raison que pendant 20 ans, Ronaldo, c'est les autres qui l'étudiaient, c'est pas lui qui étudiait les autres parce que c'était le plus fort. Il se trouve que ça, c'est quelque chose que Gonçalo Ramos fait, et moi je suis personnellement convaincu que Gonçalo Ramos va apporter quelque chose de nouveau en Europe sur ce plan-là, parce que il a joué au milieu de terrain, et il sait très bien comment défendre et comment s'y prendre pour jouer un rôle important dans un rôle collectif. Ronaldo, c'est pas le cas. Voilà, donc il y a cette interrogation, et c'est dommage parce que Roberto Martinez a vraiment réussi à mettre des choses en place, des choses intéressantes. Il y a ce dispositif à trois défenseurs qui met Nuno Mendes et Cancelo dans les meilleures dispositions. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si Cancelo était le meilleur joueur du match face au Luxembourg et que Nuno Mendes a été très bon face au Liechtenstein, pardon, et que Nuno Mendes a été très bon face au Luxembourg. Ça donne de la place à Bernardo Silva et à Bruno Fernandes. Ça aussi, c'était un vrai débat avant. Et a priori, il y a des éléments de réponse sympas ici. João Félix a fait deux bons matchs également. Il manquait cette petite cerise sur le gâteau. On aurait aimé voir Gonçalo Ramos dans ce 11.
Tu nous as parlé de génération dorée, Julien. Moi, j'aimerais bien savoir peut-être, est-ce que justement cette génération a appris à imaginer l'avenir sans Cristiano Ronaldo? Qu'est-ce qui se dit peut-être dans cette équipe? Et surtout, est-ce que certains commencent à être convaincus que le Portugal serait meilleur sans Cristiano Ronaldo? J'imagine qu'on ne le dit pas à micro ouvert, mais des bribes d'informations pour savoir si potentiellement ça peut devenir un problème aussi pour les 2 ans qui viennent au Portugal.
Alors, tu l'as dit, personne ne le dira. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs que tu évoques, on peut parler de Bruno Fernandes, de Bernardo Silva, qui sont des joueurs importants, qui font partie des références à leur poste, eux, ils sont persuadés de pouvoir gagner avec ou sans Cristiano Ronaldo. Avec ou sans, ça veut dire il est là ou il n'est pas là. D'ailleurs, Bruno Fernandes a souvent marqué quelques contradictions avec Ronaldo. Ça a encore été le cas sur ce rassemblement parce que Ronaldo, la semaine dernière, a dit qu'il y avait un espèce de nouvel air frais, une espèce de nouvel air frais avec le nouveau sélectionneur. Juste après le match de Luxembourg, Bruno Fernandes dit le contraire, dit que non, il n'y a pas de nouvel air frais, c'est juste que c'est une phase de transition. Donc, sur ce plan-là, ces joueurs-là sont capables d'assumer, mais ils attendent évidemment que ce soit le sélectionneur qui le fasse. Fernando Santos l'avait fait. Il y a un vrai doute autour de Roberto Martinez parce que souvenez-vous de sa gestion des statuts en Belgique, souvenez-vous de ce qui s'est passé au sein du vestiaire lors de la Coupe du Monde, au sein du vestiaire belge lors de la Coupe du Monde qui a complètement explosé. Donc le doute, il est là. Est-ce que Martinez va être capable de trouver une solution, entre guillemets, au problème qu'il s'est créé lui-même en redonnant un statut de titulaire à Cristiano Ronaldo?
Et ben voilà, en tout cas pour nous, c'est une très belle saga pour aller jusqu'à l'Euro 2024 et pour reparler un petit peu de Cristiano Ronaldo, désormais joueur en Arabie Saoudite. Merci beaucoup, Julien. On va
Merci à
tourner
toi.
cette page portugaise et on va désormais en Allemagne. Et allez, on enchaîne dans ce Tour d'Europe. On va en Allemagne retrouver David Lortolari, notre spécialiste Bundesliga et football allemand. David, les dernières heures ont été très très agitées en Allemagne et notamment en Bavière, puisque il y a eu cette annonce surprise, on va pas se cacher, du départ de Julian Nagelsmann remplacé par Thomas Tuchel. Ça s'est dessiné le jeudi, ça s'est officialisé le vendredi. On est lundi. Est-ce que tu peux déjà nous faire un résumé des derniers jours complètement dingues vécus par le Bayern?
Oui, c'est effectivement une dinguerie cette affaire-là. Tous les journalistes ont été soit choqués, soit surpris. Vous pouvez faire toute la gamme du vocabulaire.
Ouais.
C'est une réalité. Surtout que quelques jours avant ces événements, dans le grand billet hebdomadaire de référence, le Kicker, l'un des présidents du Bayern, M. Herbert Heiner, avait expliqué qu'on était très content au Bayern de ce que faisait Nagelsmann.
OK.
Alors peut-être était-ce une façon de tromper son monde. En tout cas, c'est écrit noir sur blanc dans le magazine, qui est un magazine hyper sérieux. Et donc, ça a d'autant plus surpris tout le monde. Le Bayern s'intéressait à Thomas Tuchel depuis mars 2022 déjà.
Ouais.
Donc on avait quand même anticipé des plans A, des plans B, des plans C. Mais les choses ont été précipitées effectivement. Alors peut-être l'un des événements, c'est le dernier match très décevant du Bayern, la défaite contre Leverkusen, avec des prestations de plein de joueurs tout à fait insuffisantes. Et c'est l'une des raisons qui ont été présentées en conférence de presse, effectivement, par Oliver Kahn, par Hasan Salihamidžić, président, directeur sportif, pour expliquer qu'on se séparait de Nagelsmann. C'était une conférence de presse très solennelle, très sérieuse, un peu sur l'émotion, quelque part aussi, parce on veut faire croire au Bayern que oui, on s'était engagé sur le long terme avec Nagelsmann, qu'on croyait en lui, et puis finalement, que ben, certaines relations avec des joueurs, certaines performances en dents de scie, l'incapacité à trouver un bon niveau en
Constant,
permanence,
ouais.
des vagues de résultats moyens, le retour après la Coupe du Monde qui a été peu convaincant, peut-être que c'est en comparaison aussi avec ce qu'a réussi Dortmund en début d'année. Tout ça, a-t-on expliqué, a précipité la décision. Mais je le répète, ce qu'on disait il y a une minute, ça reste un choc, ça reste une surprise, parce que l'engagement qui avait été pris au départ, et les présidents l'avaient répété plusieurs fois, c'était de partir sur du long terme avec un entraîneur qui formait des jeunes, qui faisait progresser les joueurs. On a cassé cette dynamique. J'ai envie de dire, j'ai mal à mon Bayern, parce que quelque part, on a l'impression aujourd'hui que c'est un club comme un autre avec cet
Ouais.
épisode, alors qu'on imaginait que justement, peut-être une forme de fidélité pouvait exister avec ce jeune entraîneur Nagelsmann.
On a quand même l'impression, David, que finalement le mariage fait sens après coup entre Tuchel et le Bayern Munich. Alors évidemment, il y a toutes les circonstances qui font que c'est un choc en Allemagne, mais c'est potentiellement le meilleur entraîneur allemand actuellement disponible sur le marché. Un des meilleurs entraîneurs européens, on l'a vu lors de son passage au Paris Saint-Germain, on l'a revu à Chelsea. Il était libre, il était intéressé par le Bayern Munich. Il était aussi dans le viseur d'autres clubs. On a parlé du Paris Saint-Germain, du Real Madrid. Le Bayern ne pouvait pas passer à côté de cette occasion-là aussi. Et en quoi peut-être Tuchel représente aussi une certaine forme de logique Tuchel au Bayern? Bon, bah, ça devait arriver un jour. C'est arrivé dans des circonstances surprenantes, certes, mais ça reste une certaine logique, non?
Absolument, les dirigeants s'intéressaient à lui de très près depuis longtemps. Et là, peut-être y a-t-il eu, c'est une forme d'explication aussi sur le timing. Peut-être y a-t-il eu une précipitation. Allez, on va dire une relative précipitation parce qu'on s'est dit, il va être courtisé par ailleurs. C'est peut-être le moment de s'engager avec lui. C'est l'occasion, il est libre, il aura d'autres sollicitations. Allons-y maintenant. C'est un engagement pour 2 saisons, si je me souviens bien. Donc c'est du court moyen terme.
Ouais.
Et c'est amusant parce que sur les réseaux sociaux, on se moque beaucoup en Allemagne du fait que lorsque Tuchel théoriquement terminerait ce mandat-là, Nagelsmann aurait encore été en poste pour 1 saison. Donc c'est un peu un revirement de politique. Mais oui, ça s'impose quelque part. Lui a répété, a expliqué en conférence de presse aussi, c'est un honneur de venir entraîner le Bayern. Et notamment pour des raisons qui peuvent paraître un peu secondaires, mais qui pour lui sont, je pense, importantes, c'est le fait de se sentir un peu chez lui.
Ouais.
Géographiquement, il est originaire du sud de l'Allemagne. Ça fait sens, effectivement, Cyril. Et puis sur le fait de diriger ce qu'il a appelé un effectif de très haut niveau. Et
Bien sûr.
effectivement, Tuchel avec ces joueurs-là, si ça colle au moins à court terme, ça peut faire des étincelles. Il a un calendrier incroyable. Il va démarrer avec Dortmund. Il y a demi-finale de coupe ensuite contre Fribourg. Et puis quelques jours après, il y aura la confrontation en Ligue des Champions contre Manchester City. Donc pour Tuchel, c'est à fond tout de suite.
Tu parlais de faire des étincelles et on refermera cette parenthèse sur ça. Thomas Tuchel, on l'a vu, ça s'est mal terminé à Dortmund, ça s'est mal terminé au Paris Saint-Germain, pas en termes de résultats, mais souvent avec ses dirigeants. C'est un entraîneur qui peut être frontal. Alors, la situation à Chelsea, avec le club en vente, etc., a fait qu'il a su mettre peut-être un peu d'eau dans son vin à cette époque-là et avoir un discours plus politique, on a envie de dire. Mais on sait que le Bayern Munich, c'est un club ô combien politique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce risque de dissension au grand jour et que le Bayern redevienne le FC Hollywood avec Thomas Tuchel?
Alors, il y a quelques éléments importants. Effectivement, Uli Hoeneß est toujours dans les coulisses et lui n'était pas un grand fan de Nagelsmann. C'est une des raisons pour laquelle aussi, on en a cité plusieurs, c'en est peut-être une autre, pour laquelle ça s'est mal terminé avec le jeune Nagelsmann. Et Tuchel va venir avec son staff aussi. Donc ça, c'est peut-être pour lui une façon d'avoir un certain confort. Mais je parlais de Hoeneß parce que, évidemment, être adoubé, être validé par l'ensemble des dirigeants de ce club où il y a beaucoup de gens importants, des gens qui ont du poids. On parlait de Hoeneß, il y a les deux présidents aujourd'hui, il y avait Beckenbauer avant, il y a Salihamidzic aujourd'hui auquel on veut donner beaucoup de pouvoir. Ouais. Tous ces messieurs comptent. Et si Tuchel est validé par tout cela, ce qui semble aujourd'hui quand même être le cas, ça va lui donner un peu de latitude. Mais évidemment, vous avez vu avec l'épisode précédent, je serai court là-dessus quand même Cyril, mais c'est important, Nagelsmann avait fait mettre dehors l'entraîneur des gardiens que Manuel Neuer appréciait tant, et ça a été l'une des raisons du bazar, du désordre, du chaos. Et Tuchel ne pourra pas forcément tout se permettre non plus. Okay. Il va arriver avec des gens à lui, il les a cités en conférence de presse, mais s'il veut tout changer au Bayern, on sait que ça ne marchera pas. Donc on va lui donner les clés du sportif. Et puis derrière, on va voir. C'est vrai que les épisodes précédents, et notamment à Dortmund, ne plaident pas en la faveur d'un Tuchel sur le long terme à Munich. Mais pourquoi pas, autant espérer un miracle, allez.
David, pendant qu'on te tient, on voulait évoquer avec toi un autre sujet relatif à l'Allemagne. Nous sommes en pleine trêve internationale. La Mannschaft ne dispute pas les qualifications parce que la Mannschaft est le pays, enfin l'Allemagne organisera l'Euro 2024 et est donc d'ores et déjà qualifiée. Et tu nous as dit qu'en Allemagne, il y avait un discours qui existait, qui expliquait que la Mannschaft devait être candidate au titre lors du prochain Euro. Au vu des résultats de la Mannschaft ces dernières années, est-ce que ce n'est pas complètement délirant d'avoir ce type de discours aujourd'hui en Allemagne ?
Il y a le précédent 2006, on avait organisé, ça avait été salué par tous en Europe et autour du monde, organisé merveilleusement la Coupe du Monde, et il y avait eu l'élan populaire qui avait permis aussi un beau résultat sportif. Je pense qu'on espère ça aussi avec cet Euro 2024, c'est un argument évidemment. Mais ça ne suffit pas, bien entendu. Ça paraît un peu fou de se dire que des joueurs, allez, soyons un peu durs, du second niveau européen, comme par exemple Kevin Schade, l'ancien de Fribourg, qui est parti en Angleterre. Ça paraît compliqué d'imaginer que ces joueurs-là soient champions d'Europe dans un peu plus d'un an. C'est vrai. Mais Hansi Flick a quand même encore un peu de temps. Il fait des expérimentations. On en a vu quelques-unes. Là, contre le Pérou, c'était intéressant d'avoir un Füllkrug buteur à deux reprises avec autour de lui un Timo Werner. Voilà quelque chose d'intéressant. On a vu aussi Kai Havertz, Florian Wirtz ensemble, les deux petits prodiges en 9,5. C'est intéressant parce que ça peut donner de belles passes décisives et de bons ballons. Donc, on a effectivement un peu les deux influences dans la tête. Se dire que le groupe n'est pas forcément le meilleur d'Europe, quoique, il y a quand même de super joueurs. Mais se dire aussi qu'il y a cet élan populaire qui va venir. Il y a, on l'a constaté à Mayence sur le match amical récent, à nouveau un intérêt populaire pour cette équipe. Je pense que c'est important, je le répète. Et puis, on va voir aussi contre la Belgique, là, un premier test cette semaine. Il y aura Domenico Tedesco en face, super jeune entraîneur allemand qui a fait de très belles choses récemment, qui va être en face. Ça va peut-être provoquer un peu les Allemands dans le sens orgueil. Et on va voir un peu ce que ça peut donner. Mais tu as raison, Cyril, sur le fond, il va falloir que ça prenne vite la mayonnaise. Le gardien, il faut résoudre Ter Stegen Neuer. La défense, il faut installer une défense centrale, on a l'impression que ça commence à venir. Le milieu de terrain, il y a profusion de bons joueurs. Et puis l'attaque, c'est là où on va voir si Füllkrug peut être le grand attaquant de 2024 ou pas. Quelques questions encore, un calendrier resserré, mais tout de même un bel espoir.
On a vu sur cette liste de Hansi Flick, Müller, Sané, Rüdiger, Gundogan, Süle ne sont pas là. Beaucoup de nouveaux noms qu'on connaît mal, nous, ici en France. Voilà, alors on regarde ça avec nos yeux français, mais quand on voit la profusion de talents qu'il y a à la disposition de Didier Deschamps dans tous les secteurs de jeu, est-ce que ça, on en parle un petit peu en Allemagne je comprends qu'il y ait une ambition populaire autour de cet euro, mais en termes de niveau et d'expérience et de top joueurs, l'Allemagne n'est plus vraiment dans le premier niveau européen.
Oui, c'est vrai. Dans la presse, on respecte en regardant un peu d'en dessous les performances de l'équipe de France et notamment Kylian Mbappé, comme partout ailleurs, évidemment. Ça, c'est un élément, effectivement. Mais à côté de ça, on fait confiance à Flick. Il a été confirmé après la défaite, enfin après la déception du dernier grand tournoi. Oui. Et aujourd'hui, les joueurs que tu as cités, pour certains d'entre eux, ils sont simplement mis au repos pour pouvoir se recharger un peu dans leur club. C'est le cas notamment d'un Thomas Müller, c'est le cas aussi d'un Leroy Sané, pour pouvoir retrouver l'allant qu'on attend d'eux. C'est une forme de punition, si on veut, petite punition pour dire, voilà, si vous voulez performer en 2024 avec la Mannschaft, il va falloir hausser le niveau. Et on en revient au Bayern dont on parlait aussi par ailleurs. Il faut que le niveau augmente pour être un peu, pouvoir à nouveau avoir la poitrine en avant et être un peu fier. Ils ont confiance que ce soit possible, mais c'est vrai, Cyril, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, on n'en est pas encore tout à fait là. Il va falloir monter le niveau en club et en équipe nationale pour vraiment prétendre à la victoire en 2024. Je suis absolument d'accord avec ça.
Et ben, premier élément de réponse quant au niveau réel de cette Mannschaft dès mardi avec ce test face à la Belgique, tu l'as dit, David. Merci beaucoup. Nous, on va enchaîner. On va partir de l'Allemagne en Italie pour évoquer le cas Milan Skriniar. Notre tour d'Europe nous emmène désormais en Italie. On retrouve Guillaume Maillard Pacini, un tifosi heureux, parce que l'Italie a regagné contre Malte. Guillaume, il y a un homme qui est sur toutes les lèvres et sur toutes les unes des quotidiens sportifs italiens ce lundi. C'est Matteo Retegui. Qui est-il?
Alors écoute, déjà, il faut dire que la victoire contre Malte n'était pas hyper emballante. Hein. En Italie, voilà, c'était un 2-0. Donc bon, on aurait espéré mieux en Italie après la défaite contre l'Angleterre vendredi. Mais en tout cas, Retegui, oui, c'est la bonne surprise de ce rassemblement. Alors Mancini, alors il joue au club Tigre, il est prêté par Boca Junior.
Il joue en Argentine, mais il est argentin normalement, mais du fait d'un passeport de ses grands-parents italiens qui venaient de Sicile, si je ne dis pas de bêtises, il a été appelé par Roberto Mancini pour ce rassemblement.
Exactement, c'est le 50e à Olyon, donc tu sais, c'est les joueurs d'origine étrangère, un peu comme Camoranesi, Jorginho et d'autres. Mais c'est vrai que Retegui, c'est la surprise parce qu'en Italie, on n'en avait pas beaucoup entendu parler, mais Mancini le suit depuis longtemps avec son staff, il a réussi à le convaincre. Écoute, ces deux buts en deux matchs, c'est une bonne surprise. Alors, pour te dire la vérité, Mancini avait comparé à Batistuta dans les caractéristiques. Et rapidement, on est revenu sur le Tanque Dennis qui jouait à l'Atalanta. Donc, c'est pour te dire qu'on est vite quand même redescendu en gamme. Mais disons que c'est la belle éclaircie de ce rassemblement italien où vraiment, on a quand même une équipe qui est encore en crise selon les médias parce que on l'a vu contre l'Angleterre, on l'a vu contre Malte, c'est une équipe qui doit encore se reconstruire. Et Mancini a coupé le lien avec le groupe de l'Euro qui a gagné l'Euro 2021. Mais en tout cas, Retegui, c'est vraiment une surprise qui a amené à durer. Après, voilà, tu le sais, on cherche un buteur depuis très longtemps en Italie, donc on ne va pas s'emballer. Mais en tout cas, voilà, c'est la bonne surprise de ce rassemblement. Matteo Retegui, pardon, on en reparlera dans le Tour d'Europe. Mais voilà, c'est un joueur à suivre. Et d'ailleurs, précision avant de terminer, il est très suivi sur le mercato. On en parle beaucoup à l'Inter. Ce sera un nom, je pense, cet été, Cyril, pourra animer le mercato estival.
Alors, on va parler mercato toujours et du prochain mercato estival, puisqu'on va évoquer le cas de Milan Skriniar, le défenseur de l'Inter Milan, Guillaume, qui va s'engager au Paris Saint-Germain l'été prochain. Il n'y a plus beaucoup de surprises autour de ce dossier-là. Il s'engagera libre. Le souci, c'est que à Paris, on commence à s'inquiéter de l'état de santé de Skriniar. Pourquoi ? Parce que depuis la fin du mercato de janvier, il a très peu joué. Je crois que c'est uniquement 4 matchs. Surtout, il a une blessure au dos qui commence à faire beaucoup parler, qui inquiète jusqu'au sein de l'état-major parisien. Qu'en est-il tout simplement?
Bah, écoute, l'inquiétude, elle est réelle et concrète de la part du PSG. Alors l'Inter, j'ai envie de te dire un peu moins dans le sens où son départ est acté, mais le fait est que l'Inter, tu le sais, a un quart de finale de Ligue des Champions à jouer, ouais, un top 4 à aller chercher en Serie A pour se qualifier justement à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Donc forcément, c'est un cas qui reste surveillé de près. Il y a eu ce voyage, alors vrai ou faux, selon l'entourage du joueur, c'est faux. Lui, il a démenti directement. Selon l'Inter, et le PSG n'a pas réagi. Mais en tout cas, voilà, il aurait été dans un centre dans le sud de la France pour se faire examiner justement le dos par des examens complémentaires, on va dire, ordonnés par le PSG et en présence d'un membre du staff médical parisien. L'Inter a été au courant de ce voyage-là et n'a pas été forcément heureuse, ouais, parce que, certes, le joueur va partir à Paris, mais le fait est qu'il reste un joueur sous contrat de l'Inter jusqu'au 30 juin. Donc, c'est vrai que c'est un voyage, alors vrai ou faux, encore une fois, selon les versions, mais qui a pu agacer au sein de l'Inter. Et sa blessure est sérieuse. Alors, l'équipe parlait d'une fin de saison. Pour l'instant, Italie, on n'en est pas encore à là. Mais en tout cas, Skriniar, tu l'as dit, a très peu joué depuis son départ officieux à Paris. Et forcément, c'est un cas qui inquiète. C'est un cas qui agace et qui agacera jusqu'en juin prochain. Mais forcément, c'est un joueur aujourd'hui qui, ces dernières années, n'avait pas connu trop de blessures, du moins pas à ce point-là.
Okay.
Et depuis fin janvier, honnêtement, on le voit très peu. Donc oui, c'est assez inquiétant pour le joueur, pour l'Inter, et pour Paris, qui forcément, on le sait, va le récupérer en fin de contrat. Mais le salaire sera assez élevé, donc ouais, plus la commission, évidemment. Donc forcément, Paris est très attentif à ce cas Skriniar.
On a vu qu'il avait été, il avait dû déclarer forfait pour ce rassemblement international avec la Slovaquie. Son sélectionneur a dit qu'il ne va pas bien physiquement. C'est assez clair et net. Il a joué quelques minutes pour le match retour face à Porto. Moi, j'ai une question peut-être du côté de l'Inter aussi sur sa relation maintenant avec le club. On sait que ça a été un peu compliqué, enfin, que les ultras ont envisagé à un moment de le siffler. Il a été rétrogradé dans la hiérarchie des capitaines. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui de Skriniar à l'Inter? Est-ce qu'on considère qu'il est encore joueur de l'Inter et qu'on pense à lui pour les échéances qui viennent? Ou est-ce qu'à l'inverse, on a tourné la page et a priori, on n'est même pas sûr de revoir Skriniar sous le maillot interiste?
Alors écoute, comme je te l'ai dit, les objectifs sont trop importants pour cette fin de saison pour se passer d'un joueur comme Skriniar, ouais, à 100% évidemment. S'il est blessé, voilà, il ne pourra pas être là. Mais disons qu'il y avait une rencontre aussi entre les ultras de l'Inter et Skriniar pour mettre à plat les choses. Skriniar a expliqué ses raisons aux ultras à la Curva Nord. Il avait fait un communiqué à l'époque qui avait compris et qui avait dit qu'il n'y aurait pas de sifflet. Tu l'as dit, le Capitana, il a perdu son brassard. Forcément, c'est un départ qui est mal digéré parce que l'Inter pensait qu'il allait rester. BP Marotta, l'administrateur délégué, était certain qu'il allait parvenir à le prolonger. Les supporters avaient fait plusieurs banderoles pour l'amener à rester dans sa ville, là où il était capitaine. Et le voir partir en fin de contrat, c'est surtout ça, Cyril. C'est le fait que Skriniar, c'est un joueur qui, l'été dernier, on se rappelle des offres du PSG, c'était autour des 50 millions d'euros. Et aujourd'hui, un an après le voir partir gratuitement, disons que c'est un départ qui ne se fait pas, on va dire, dans les règles de l'art et ce qui aurait pu un peu atténuer la douleur des ultras de l'Inter et de l'Inter elle-même. Aujourd'hui, c'est un départ, alors aujourd'hui, qui est devenu indolore parce que la blessure se referme inévitablement. Par contre, c'est un départ, oui, qui fait mal, qui fait mal au vestiaire parce qu'il était très apprécié, aux dirigeants, aux caisses du club parce que tu le sais, l'Inter n'est pas dans une situation, économiquement agréable. Et pour son entraîneur, Inzaghi, qui l'appréciait beaucoup. Donc aujourd'hui, voilà, on commence un peu à passer outre. Mais en tout cas, oui, sur le principe même de son départ et sur la forme plus que sur le fond, on va dire, voilà, ça a été assez indigne.
Dernière petite question sur le cas Skriniar. Tu nous disais que c'était plutôt nouveau de le voir absent parce que là, on a vu beaucoup de réactions de supporters parisiens inquiets de recruter un joueur diminué potentiellement, mais qui pourrait être sujet à d'autres blessures. C'est plutôt un joueur très fiable en termes de matchs joués par saison d'habitude.
Oui, c'est un joueur qui, normalement, ne rate pas autant de matchs que ça. Alors, est-ce qu'il se préserve? Alors, tu sais, au début, on était là par une blessure diplomatique. On s'est forcément demandé. Visiblement, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, non, c'est un joueur qui est fiable, c'est un leader de vestiaire sur le terrain, c'est un joueur qui a du caractère, qui alors, petit point tactique, mais qui joue souvent dans une défense à 3, et à l'Inter, il a toujours joué dans une défense à 3, sous Conte, sous Inzaghi. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui, d'ordinaire, est très fiable. Il ne faut pas se fier à ces dernières semaines. Okay. Par contre, c'est certain que si nous jouons à Cyril, on refait un tour d'Europe et qu'en mai, il n'a toujours pas joué depuis. Voilà, il attend de s'inquiéter. Mais en tout cas, le PSG inquiète, c'est ça qu'on peut le dire. Ouais. L'Inter, plus le temps passe, plus elle est moins parce qu'il sait qu'elle va partir, enfin que le joueur va partir. Mais en tout cas, c'est un joueur qui, d'ordinaire, est très fiable. Donc là-dessus, il n'y a pas trop d'inquiétude. Par contre, tu le sais, le dos, c'est une blessure qui est toujours assez délicate. Donc c'est pour ça aussi, je pense, que Paris le surveille de près parce que. Tout est signé, ça là-dessus, il n'y a pas grand doute, le pré-contrat, tout est acté pour son départ. Par contre, si le PSG récupère un joueur à 50%, forcément, il y aura des grandes questions qui entoureront la suite. Mais en tout cas, oui, Skriniar est un joueur fiable. Par contre, sa situation actuelle est surveillée par Paris et on comprend pourquoi.
Et ben voilà pour le cas Milan Skriniar. Merci beaucoup Guillaume. On va terminer ce Tour d'Europe avec ça, tout simplement. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour. D'ici là, abonnez-vous évidemment à Tour d'Europe via les plateformes de podcast. Il suffit de taper Eurosport FC pour retrouver et Tour d'Europe et le FC Stream Team. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et suivez le football européen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.